Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 16 et notre thème sera l'ascension du vainqueur et son triomphe total. Chers frères et sœurs, l'Évangile entre maintenant dans l'arène du monde au milieu des cris de joie des armées célestes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Saint Luc 2, verset 14. Celui que les pères attendaient depuis si longtemps apparaît au milieu de son peuple. Il est espérance. Acte 26, verset 6. Et la consolation d'Israël. Saint Luc 2, verset 25. Il est Dieu manifesté en chair. Quel mystère de piété! 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il vient sous la forme d'un serviteur. Philippe, chapitre 2, verset 7. Dans l'humilité, se soumettant à la pauvreté. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Mais cette forme visible était le tabernacle de son intrinsèque divinité. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Même jusque dans le fief de la mort, il demeurait le prince de la vie. Acte 3, verset 15. Car en elle-même, la sainte parole, Jésus-Christ, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Saint Jean, chapitre 1, verset 4. Je vous répète ce que vous venez d'entendre sans citer les versets bibliques. L'Évangile entre dans l'arène du monde au milieu des cris de joie des armées célestes qui crient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». Bienveillance envers les hommes. Celui que les pères attendaient depuis si longtemps apparaît au milieu de son peuple. Il est l'espérance et il est la consolation d'Israël. Il est Dieu manifesté en chair. Quel mystère de piété! Il vient sous la forme d'un serviteur. Dans l'humilité, il se soumet à la pauvreté. Mais cette forme visible était le tabernacle de son intrinsèque divinité. Même jusque dans le fief de la mort, il demeurait le prince de la vie, car en elle, en la sainte parole qui est Jésus-Christ, se trouvait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Premièrement, nous avons les messages divins. Christ, le Fils de Dieu, l'annonce de sa venue est faite d'abord dans le temple au prêtre Zacharie. Saint Luc, chapitre 1, versets 8 à 13. Elle est en relation directe avec les plus récentes prophéties de l'Ancien Testament. Notez Malachie, chapitre 4, verset 5. Elle parle du second Élie, celui qui doit préparer le chemin du Seigneur lui-même, du précurseur qui précédera la venue du Seigneur, du Dieu d'Israël. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Saint-Luc chapitre 1, versets 16 et 17. Ce Seigneur est Dieu, et celui que Malachie avait vu en esprit entrer dans son temple, Malachie 3, verset 1, il était tout indiqué que l'accomplissement imminent de ce message soit proclamé à un prêtre dans un temple. Christ est le fils de David. La seconde annonciation fut faite à Marie, vierge pieuse de la maison de David. Saint-Luc chapitre 1, verset 26 à 38. L'ange rappelle les promesses davidiques et en particulier celles faites à David lui-même par le prophète Nathan, prophétie qui décrivait le Messie comme étant le Fils de Dieu et Fils de David. 1 Chronique, chapitre 17, versets 11 à 14. L'ange ajoute ces mots. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Saint-Luc chapitre 1, verset 32. Le message angélique est merveilleusement bien adapté à la personne qui le reçoit. Christ est le Sauveur. C'est à Joseph que s'adresse la troisième proclamation. Bien que d'ascendance davidique, Joseph a pour rôle dans l'histoire non celui d'un père, mais celui d'un père nourricier. En tant qu'Israélite pieux, il est désigné pour recevoir le Rédempteur dans sa maison. Le message annonce que pour les Israélites pieux, conscients de leur besoin de rédemption, le Christ sera l'Emmanuel, Dieu avec nous, prédit par Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Saint Matthieu chapitre 1, verset 21. Il est question ici des fonctions et de l'œuvre du Rédempteur. Jésus-Christ est apparu comme Fils de Dieu et Fils de David afin d'être le Rédempteur. Jésus, le Seigneur et le Salut, ceci est donc son nom particulier. Être le Rédempteur est à ce point sa nature, que Sauveur est son nom humain, direct et personnel. Le message de l'armée céleste au berger résume cette triple proclamation. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, pour ce qui est de la prophétie d'Ésaïe et du Saint-Nom de Jésus confié à Joseph, qui est le Christ le Seigneur. En rapport avec le message de Malachie sur la venue du Seigneur, parole répétée à Zacharie dans la ville de David et selon la prophétie de Nathan concernant le fils de David et prophétie rappelée à Marie. À ce quadruple témoignage sorti de la bouche des anges, fait écho un septuple témoignage indirect de l'Esprit-Saint apporté par des lèvres d'hommes tels que Zacharie, les bergers, Siméon, les mages, Élisabeth, Marie et Anne. Zacharie louait Dieu de ce qu'il avait visité les hommes, Luc chapitre 1, verset 68, et les versets 76 à 79. Les bergers louaient le Sauveur, Saint Luc chapitre 2, verset 20, et le verset 11. Les mages adoraient leur roi, Saint Matthieu chapitre 2, verset 11, et notez le verset 2. Siméon glorifiait la lumière du monde, Saint Luc chapitre 2, verset 31 et 32. Et des trois femmes, Élisabeth célébrait le bonheur, Saint Luc chapitre 1, verset 41 à 45. Marie glorifiait la miséricorde, Saint Luc chapitre 1, verset 54, verset 50 et le verset 48. Anne glorifiait la rédemption, Saint Luc chapitre 2, verset 38. Chers amis, afin que vous puissiez être sûrs et certains que je ne vous dis pas des choses selon ma propre pensée ou philosophie, mais uniquement selon ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu, c'est pour cela que je vous cite de très nombreuses citations, versets bibliques, pour que vous puissiez par la suite contrôler, c'est important, si ce qu'on vous dit est vraiment de source sûre. Bien sûr, ceux qui ne croient pas au Saint-Livre, ils ne le croiront jamais. Deuxièmement, nous avons l'incarnation qui est un fait historique. De puissants mouvements dans le monde supérieur ont précédé l'apparition du Fils de Dieu sur la terre. Les Saintes Écritures en disent très peu de choses, mais elles relatent ce mot du Fils au Père alors qu'il entrait dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, et dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Alors il s'est produit l'incompréhensible. Le Fils quitta la splendeur du ciel pour devenir aussi réellement homme que nous-mêmes. Abandonnant la forme éternelle de Dieu, il devint volontairement semblable aux hommes. Quittant la forme divine, libre et inconditionnelle, d'absolu gouvernement du monde, le Fils entra dans les limites temporelles et spatiales de la création. Donc, le Verbe éternel devint âme humaine et se dépouilla des insignes de sa majesté divine. L'égoïste s'entête à maintenir fermement des possessions, même injustement acquises. Philippiens 2, verset 6. Or Jésus, source première de l'amour, n'a pas regardé ses possessions légitimes ou sa forme et sa position divine comme privilège à maintenir à tout prix, les abandonnant en vue de nous sauver. Il descendit dans les régions inférieures de la terre, selon Éphésiens chapitre 4, verset 9, afin de nous élever, nous les racheter avec et en lui-même vers les hauteurs des cieux. Dieu participa à la nature humaine afin que l'homme puisse avoir part à la nature divine. Je répète, Dieu participa à la nature humaine afin que l'homme puisse avoir part à la nature divine. Il se fit pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. La préexistence du Christ n'est pas simplement un idéal. Saint Jean, chapitre 8, verset 58 et chapitre 17, verset 5. Et ajoutez Philippe, Philippiens, chapitre 2, verset 6 à 8. Attribuant au Fils une action et une volonté avant même la fondation du monde. Cela établit pleinement la préexistence personnelle, consciente et réelle du Christ. Il a été envoyé. Il procède du Père. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, et Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Spécialement, notez les versets 1 à 5 et Hébreux, chapitre 10, verset 5 à 7. Son apparition est le point central de toute l'histoire du salut de l'humanité. Ce qui l'a précédé était anticipation de lui. Ce qui est venu après fut accompli en son saint nom. De même que les couleurs variées d'un prisme, en dépit de leur diversité, sont les rayons d'une lumière, ainsi l'histoire de la révélation, avec toutes ses dispensations, et le produit, c'est le produit d'un principe de vie uniforme. Christ médiateur est la pierre d'angle du tout. Son œuvre sur la terre est le point tournant de tout développement, et l'histoire de sa personne est le contenu essentiel de toute histoire. L'incarnation du Christ est l'entrée du Seigneur de l'histoire dans l'histoire elle-même, de sorte que l'étable de Bethléem, en relation avec Golgotha, sera toujours le point tournant de tous les temps, le point culminant de tout amour, le point de départ de tout salut et le point central de toute adoration. Nul n'est capable d'expliquer comment en Christ divinité et humanité s'unissent pour n'être qu'un seul. Le secret de son abaissement est pour toujours insondable. Non seulement Christ a fait des prodiges, mais il était lui-même un prodige. En fait, il était le prodige des prodiges, le miracle original en personne. Nous ne comprenons pas encore le temps. Nous comprenons encore bien moins l'éternité tellement énigmatique. Comment pourrions-nous comprendre, alors que l'énigme des énigmes, l'union de deux mystères opposés, l'intersection dans le temps de deux parallèles, l'union harmonieuse de l'infini et du fini, les controverses christologiques du IVe au VIIe siècle ont prouvé que toutes les spéculations sont vaines. Troisièmement, nous avons l'incarnation et la résurrection. La signification salvatrice de l'incarnation nous apparaît plus distinctement lorsque nous la considérons en relation avec la résurrection du Seigneur. C'est seulement à travers la résurrection et l'ascension que le miracle de Bethléem prend toute sa signification biblique. Descendre jusqu'à nous est un abaissement sans égal pour le Fils. Pourtant, son infinie humiliation n'était pas l'incarnation elle-même, mais le fait de prendre la forme humaine dans le déshonneur et sous les conséquences du péché. Non pas qu'il soit venu dans une chair pécheresse, mais dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, verset 3. En effet, si le fait de devenir homme avait été en soi l'humiliation du Fils de Dieu, son exaltation eût forcément été l'abandon de la nature humaine. Or, l'Écriture enseigne clairement qu'il a retenu la forme d'un homme dans son élévation, sa résurrection et son ascension impliquent une persistance éternelle de son humanité transfigurée en gloire, encore que d'une manière tout à fait incompréhensible pour nous. Saint Jean chapitre 20, verset 15 et verset 25, et notez Saint Luc chapitre 24, verset 13, et les versets 36 à 43, Actes chapitre 1, verset 11, Apocalypse chapitre 1, verset 13, et Philippiens chapitre 3, verset 21. Il a pris la forme d'un esclave, Philippiens chapitre 2, verset 7. La condition de l'homme dans sa présente abjection. Cependant, par son œuvre de rédemption, il l'éleva et la transfigura si bien qu'il était impossible que subsiste plus longtemps la moindre contradiction ou antithèse entre cette condition et sa propre gloire de fils assis à la droite du Père. La gloire céleste de l'homme Jésus-Christ n'est certainement pas inférieure à celle du Verbe éternel avant son incarnation. Il a dit lui-même, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant, oui, avant que le monde fût. » Saint Jean, chapitre 17, verset 5. Cette éternelle persistance de l'humanité du Fils de Dieu est une condition indispensable à l'achèvement de son œuvre. Car c'est seulement comme homme glorifié qu'il peut être le dernier Adam, selon Romains chapitre 5, versets 12 à 21, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22 et verset 45, la tête exaltée de l'homme nouveau, selon Éphésiens chapitre 4, verset 15, Colossiens chapitre 2, verset 19 et Éphésiens chapitre 2, verset 15, est de l'organisme humain racheté, qui représente son Église. C'est ainsi seulement que les sauvés peuvent être en Christ, en communion vivante et organique, comme membre du corps, avec lui-même, qui est la tête, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, et Éphésiens chapitre 1, verset 23. « que le Christ demeure homme fait donc essentiellement et nécessairement partie de son élévation. Que le Christ se fasse homme afin d'être le dernier Adam, telle est l'éternelle idée qui est à la base de son apparition sous la forme humaine. Il fut homme humilié afin d'atteindre à travers les souffrances les gloires du dernier Adam. Tel fut l'aspect historique de sa venue dans le monde, le Christ se dépouillant de sa gloire. Cet aspect historique n'était cependant que le moyen de réaliser le dessein éternel. Il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, Saint Matthieu chapitre 20, verset 28, et cela afin de sauver pour l'éternité par l'heure de Golgotha tous ceux qui, appelés par lui à la repentance, se laisseraient trouver et sauver. Saint Luc 19, verset 10. Parce que nous sommes incorporés à lui, qui est notre vie, le Christ établit en nous une stature toujours plus victorieuse. Sa sainte nature s'implante en nous, qui sommes ses rachetés. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. En un processus continuel, de sorte que l'incarnation du Fils, point central de l'histoire universelle, devient en même temps le point central de l'histoire de notre vie personnelle et le but de notre avenir. Le Saint Nom de Jésus-Christ a une triple fonction. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, « Ton nom est un parfum qui se répand. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Pourquoi le Rédempteur fut-il appelé Jésus-Christ? Premièrement, nous avons le nom Jésus. Ce nom a une triple signification. En premier lieu, c'est simplement, premièrement, son nom personnel. Tu l'appelleras du nom de Jésus, c'est Matthieu 1, verset 21. Christ n'est pas avant tout un nom personnel. Et c'est pourquoi, en Éphésiens, chapitre 2, verset 12, c'est Christ qui devait être employé et non pas Jésus, comme indique d'ailleurs le contexte. Le nom Jésus ayant été donné au Fils de Dieu dans l'incarnation, c'est réellement, deuxièmement, son nom en humiliation. Il est si étroitement lié à son abaissement que le Seigneur l'a eu en commun avec d'autres, tels que Josué, fils de Nun, successeur de Moïse, en grec, Jésus, Hébreux chapitre 4, verset 8. Josué, grand prêtre au temps de Zacharie, Zacharie 3, verset 1. Jésus, Sirach, Jésus, Justus, Colossiens 4, verset 11. Et même un certain Jésus, père du magicien Bar-Jésus, fils de Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. C'est donc pour cela que les évangiles parlent le plus souvent de Jésus, alors que dans les épîtres, le titre Christ prédomine. Les évangiles se rapportent au temps de son humiliation, alors que les épîtres rendent témoignage de celui qui a été élevé et glorifié. Dans le nom Jésus, l'idée du salut prévaut, alors que c'est sa gloire qu'exprime le titre Christ. Dans les épîtres, Jésus n'est employé que lorsque il faut souligner son abaissement. Selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10, Philippiens chapitre 2 verset 10, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 et Hébreux chapitre 2 verset 9. Et Pierre l'affirme le jour de la Pentecôte, c'est par la résurrection et l'ascension que Jésus devient, à proprement parler, qu'il devient le Christ au plein sens du mot. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Parce que la route du Seigneur alla du dépouillement à la gloire, le Nouveau Testament suit la même route de Jésus au Christ, tout comme l'Ancien Testament allait inversement de l'idée générale du Messie, le Christ, à l'apparition historique de Jésus de Nazareth. Mais la signification principale du nom Jésus réside dans le sens même du mot « le Seigneur est salut ». En cela, Jésus est spécialement, troisièmement, son nom comme Sauveur, Rédempteur du monde. Alléluia. Ce nom contient une triple révélation. L'exclusivité de son salut, car il est le seul qui puisse sauver, Actes 4, verset 12. De là, l'accent mis en grec sur lui, en Saint Matthieu chapitre 1, verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple. Les limites du salut sont « il sauvera son peuple ». Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et Tite, chapitre 2, verset 14, c'est-à-dire ceux de toutes les nations qui croient en lui. La profondeur et la largeur de son salut sont non seulement qu'il sauvera des conséquences du péché, des conséquences de la condamnation et du jugement, mais encore des péchés eux-mêmes, oui, de leur esclavage, domination et puissance. Il est la source non seulement de la justification, mais aussi de la sanctification. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Tout cela est compris dans le nom de Jésus. À lui seul, il dévoile la raison de la venue du Rédempteur dans le monde. C'est comme la table des matières, le titre et le symbole de son activité salvatrice. Il n'est dès lors pas étonnant que ce soit là le nom qui remplira les louanges des rachetés pendant l'éternité. Pas étonnant qu'à ce nom, tous genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens, chapitre 2, verset 10. Deuxièmement, nous avons le nom Christ. Quatre faits nous dévoilent la signification profonde de ce saint nom. Premièrement, nous avons la triple onction officielle dans l'Ancien Testament. Il y avait dans l'Ancien Testament trois onctions théocratiques essentielles, ordonnées par Dieu: l'onction du souverain sacrificateur, Lévitique chapitre 8, verset 12, celle du roi, 1 Samuel chapitre 10, verset 1, chapitre 16, verset 13, et celle du prophète, 1 roi, chapitre 19, verset 16. Lorsque le médiateur du salut est décrit comme Christ, Messie, c'est-à-dire le oint, cela signifie que les plus hautes fonctions et dignités de l'ancienne alliance sont unies en sa personne et que en lui, toutes les prophéties ont trouvé leur accomplissement. Selon la prophétie de Jérémie au sujet de la nouvelle alliance, Jérémie 31, versets 31 à 34, Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12, le Messie apporte une extension de son règne jusque dans la vie intérieure. Jérémie chapitre 31, verset 33, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il, on peut dire, affirme une augmentation du don de prophétie et une consommation éternelle du sacerdoce. Jérémie, chapitre 31, verset 34. Il met donc sa nature dans son propre peuple, faisant de chacun des rois, prêtres et témoins de sa vérité prophétique. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, et Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Donc le donateur est lui-même le don. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15 est fait rayonner à travers ses rachetés sa propre splendeur messianique selon Actes chapitre 11 verset 26. Deuxièmement, nous avons un triple développement dans le Nouveau Testament. En trois grandes étapes, le Seigneur déploya le contenu glorieux de son titre Christ. Premièrement, il est venu comme prophète dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18. Il est venu comme fils par qui Dieu a parlé dans ces derniers temps. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Et il est venu étant le resplendissement de la gloire de Dieu. Il a fait connaître la nature de son Père avec une clarté incomparable, bien mieux, oh oui, bien mieux que tous les anciens prophètes. Saint Jean chapitre 1, verset 18. Et chapitre 3, verset 13. Ce prophète alla à la croix. Il se laissa charger des péchés du monde. Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Devenant à la fois l'agneau du sacrifice et le sacrificateur. Hébreux, chapitre 9, verset 12, verset 14. Et versets 25 et 26, et faisant par lui-même la purification des péchés, Hébreux chapitre 1, verset 3. Il fut enfin élevé et il s'assit à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, Hébreux chapitre 1, verset 3, parce qu'il a souffert jusqu'à la mort Hébreux chapitre 2, verset 9, lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur comme roi. Troisièmement, nous avons le triple esclavage de l'homme. Pourquoi cette triple fonction? Parce que le salut de l'homme comporte une triple nécessité. L'humanité déchue est tenue sous un triple esclavage et doit donc être rachetée sous trois rapports. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme créature le reflet de sa nature spirituelle, sainte et bénie, pour qu'il soit le miroir de sa spiritualité, il lui donna l'entendement pour qu'il soit la copie de sa sainteté et de son amour. Il lui accorda la volonté afin pour qu'il soit un vase de ses bénédictions et de ses joies. Il lui fit don des sentiments. Alors est venu le péché. L'homme entier est tombé. Son entendement a été, a obscurci, selon Éphésiens chapitre 4, verset 18. Sa volonté est devenue mauvaise, Saint Jean chapitre 3, verset 19. Et ses sentiments sont devenus malheureux. Romains chapitre 7, verset 24. Et quatrièmement, nous avons le triple aspect de l'œuvre du Rédempteur. Comme prophète, Christ apporte la connaissance, c'est-à-dire la lumière. Il arrache l'entendement aux ténèbres du péché. Il établit le royaume de vérité. Comme prêtre, il apporte le sacrifice, il efface la culpabilité et jusqu'à la conscience de la faute. Ainsi, délivre-t-il nos sentiments de la pression, de la misère et d'une conscience accusatrice, établissant le royaume de paix et de joie. Comme roi, il gouverne la volonté, la guide dans des chemins de sainteté. Oui, je répète, comme roi, il gouverne notre volonté. Il la guide dans des chemins de sainteté et il établit le royaume d'amour et de justice. Ainsi donc, son titre de Christ embrasse un triple salut devenant le développement et l'explication de son saint nom Jésus. C'est parce que le Rédempteur est le Christ, objet d'une triple onction, qu'il est Jésus le Sauveur. Son triple ministère libère l'homme dans les trois facultés de son âme, entendement, sentiment et volonté. Un salut entier, libre et complet, est introduit, si bien que la rédemption ne saurait être plus parfaite qu'elle ne l'est. La triple souffrance faite de ténèbres, on peut dire de ténèbres malheur et inquiété, tout cela fait place à un salut triple, bien qu'organiquement simple, fait de lumière, de bonheur et de sainteté, ainsi de la créature qui est renouvelée à l'image de Dieu, resplendit à nouveau la spiritualité. Colossiens chapitre 3, verset 10, ajoutez la gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et ajouter la sainteté de Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Chers amis, nous allons arrêter ici pour prier ensemble. Demain, Dieu voulant, nous aurons l'étude numéro 17 et le titre sera « Quel est le message du royaume des cieux ?» Quel est le message du royaume des cieux ? Mais la plupart d'entre vous le savent déjà, c'est Matthieu chapitre 3, verset 2, 4, chapitre 4, verset 17. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Saint Matthieu 3, verset 2 et Saint Matthieu 4, verset 17. À demain donc, Dieu voulant, pour la suite, et maintenant, nous allons prier ensemble pour terminer. Dieu Tout-Puissant, nous devrions fléchir les genoux devant toi, que le cœur plein d'une vive et sincère reconnaissance. Nous devrions sentir toujours au fond de nos âmes les émotions de l'amour et de l'adoration qui te sont dues. Mais nous venons à toi sans besoin véritable de te rendre grâce, souvent avec froideur et souvent avec répugnance. Nous demandons le bonheur à toutes les choses du monde et nous oublions qu'il n'est qu'en toi, ô notre Père céleste. En poursuivant mille chimères, en nous attachant étroitement à de vaines et funestes illusions, nous obéissons à l'un des instincts que toi-même as placé en nous, mais ainsi qu'à l'égard de tant d'autres de tes dons, nous méconnaissons l'usage que nous en devons faire. C'est toi, Seigneur, qui as mis dans nos âmes cette soif de bonheur que rien, absolument rien, ne peut complètement apaiser ici-bas où tout est fragile et périssable. Et ce sentiment si impérieux dans tout cœur d'homme devait nous diriger vers toi, car toi seul es le bonheur, mais déchu de l'innocence primitive, né dans la corruption, enclin au mal, nous n'élevons plus nos regards vers le ciel et nos âmes rampent sur la terre. Ô Dieu, n'as-tu mis en nous ces désirs si puissants que pour nous livrer au trouble, à l'agitation, à l'inexprimable souffrance? Non, 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 car tu es pour nous le plus tendre des pères, et dans ta miséricorde tu as préparé la source d'eau vive où doit s'étancher notre soif. Jésus-Christ, ton divin Fils, a dit lui-même, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur du monde, a souffert et est mort pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en lui, qui viennent à lui pour avoir la vie et qui reçoivent de lui grâce sur grâce. Voilà donc la source du vrai bonheur, le sentiment de notre réconciliation avec toi, Seigneur, l'assurance de notre salut et d'une éternité de paix, ton amour pour nous et notre amour pour toi, tels sont les éléments qui le composent. Et ce bonheur, d'une pureté inaltérable, dispose notre cœur à être plus satisfait de sa portion terrestre et le console des épreuves de cette vie rapide et stressante. Ô Dieu, accorde-nous à tous d'être véritablement heureux en toi. Et pour cet effet, attire-nous de plus en plus au pied de la croix de ton Fils bien-aimé. Amen. Et chers amis, je voudrais vous mettre un ou deux chants qui sont du passé. Il y a plus de 50 ans, j'avais donc élaboré, formé une mission sur cassette. Bien sûr, vous comprenez bien que les cassettes, hein, c'est tellement du passé et que c'est pas du tout la qualité d'un CD. Mais l'essentiel, c'est de recevoir dans vos cœurs et esprits et âmes quelque chose de ces chants qui vont vous aider pour la journée. Que le Seigneur vous bénisse et écoutez, si possible, si vous pouvez retenir une ou deux paroles, malgré la qualité mauvaise de ce temps-là, il y a plus de 50 ans, quand j'avais fondé cette émission sur cassette. À bientôt, à demain, et donc un tout petit peu de musique et de chant pour vous. Au revoir.
Why it's you. this way? Why find his service sweeter every day? It's the only life worth living. He's made our world complete.
Made our world
my little girl climbs on my knee. When the clouds of gloom and doubt would hover low, then she whispers, "Daddy, I really love you." And my doubts just seem so small. He's made our home a heaven here below. And you ask me why I love him, why choose to walk this way, why find his service sweeter every day. It's the only life worth living. He's made our home complete. Oh, that's what Jesus means to me. The moments